Un excellent sabbat à vous tous. Le titre du sermon aujourd'hui, Affermir notre élection. Affermir notre élection. La Bible parle à plusieurs reprises que ceux qui sont appelés peuvent être élus et s'ils sont fidèles, ils vont recevoir la récompense qui leur est due et en même temps vont recevoir d'abord, bien sûr, la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que l'élection? Si on met ça dans les termes les plus simples, une élection, c'est un choix. Quand il y a des élections, par exemple, dans le pays, pour élire un gouvernement, les gens font un choix de gouvernement. Alors, une élection, c'est un choix. Être élu pour aller représenter, par exemple, une circonscription électorale, c'est être choisi. Hein? Alors, ça, c'est la définition. Quelqu'un qui est un élu, c'est quelqu'un qui est choisi. Et lorsqu'on est un élu de Dieu, on est choisi par Dieu pour un but spécifique, pour un but merveilleux particulier. Alors, parmi tous les appelés, Dieu choisit avec qui il veut travailler, avec qui il décide de travailler. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, hein? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a une différence entre ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus. Dieu offre à un grand nombre de personnes l'appel, mais ce n'est pas tout le monde qui répond à son appel. Mais ils ont été appelés. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond positivement à son appel, qui regarde sa loi et qui disent « J'ai transgressé les lois de Dieu », qui comprennent que qui ont causé la mort du Christ, qui veulent changer, qui regrettent ça, qui veulent vivre selon Dieu maintenant. Et là, ils font le chemin. Ceux qui sont appelés et qui font ce chemin-là, Dieu les choisit et travaille avec eux autres d'une façon particulière. Mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, c'est avec les élus que Dieu travaille. Et une fois que Dieu nous a choisis ou nous a élus, à ce moment-là, nous, on a un rôle à jouer. Il faut affermir notre élection. Il faut rendre notre élection certaine. Il faut marcher fidèlement selon les voies de Dieu. Parce qu'on peut perdre notre position si on néglige ou si on se détourne de Dieu. Voyez-vous? Ça, vous le savez. Alors, Dieu choisit avec qui il va travailler. Et une fois qu'il a choisi des individus avec qui il travaille, il leur donne l'aide nécessaire et il exige que ces êtres-là choisis, membres de son Église, lui soient fidèles. Et c'est là qu'est notre travail, nous, de persévérance jusqu'au retour de Christ. Marcher dans la fidélité. C'est ce que la Bible appelle aussi la persévérance des saints, la persévérance des saints. Alors, les appelés qui sont choisis et qui persévèrent dans la fidélité vont, bien sûr, selon la promesse de Dieu, un, hériter la vie éternelle, et deux, régner sous le Christ dans le monde à venir pour que les autres soient appelés et soient choisis et apprennent la fidélité. Le même chemin que nous, on a à faire maintenant. Allez à Apocalypse 17, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 17. C'est important qu'on voit ce que ça veut dire, puis où on se situe là-dedans, qu'est-ce qu'on a à faire, puis on peut s'évaluer à partir de là, si on est vraiment en marche, dans la bonne direction, puis ça nous encourage de voir comment Dieu travaille exactement avec nous, puis avec qui il travaille. Alors, Apocalypse 17, on va lire à partir du verset 12. « Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. » On sait que ça, c'est tout proche devant nous. L'Empire romain est en train de préparer sa dernière résurrection. Et quand ce sera fait, il y aura 10 rois qui vont donner leur autorité à un seul maître, qui va être appuyé par une fausse grande religion, bien sûr, mais un seul maître qu'on appelle la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, ces 10 rois-là, ou régnants. Ils combattront contre l'agneau, parce qu'ils seront en poste, en place, lorsque l'agneau va revenir. Mais ils n'accepteront pas le retour de Christ. Et ils vont combattre la deuxième venue du Christ. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce que là, il revient, non pas en tant qu'un être humain, pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos fautes, mais là, il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Alors, il les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et regardez après, qui sera avec lui? Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors, c'est qui accompagneront le Christ à ce moment-là? Ceux qui auront été appelés, mais ce n'est pas tous les appelés. Ceux qui auront été appelés, mais qui auront été choisis parce qu'ils ont tourné vraiment leur cœur vers Dieu et qui travaillent à changer, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui développent le caractère de Dieu, sa pensée, sa façon d'agir, de faire pour être prêt à régner lorsque le Christ va revenir. Alors, les appelés, les élus ou les choisis et ceux-là, parmi ceux-là, les fidèles. Parce que tant qu'on n'est pas rendu au bout, si nous abandonnons, nous perdons tout. L'occasion qui est donnée une fois, ou la chance de salut, elle est donnée une fois. Et on ne doit pas la perdre. Et si on abandonne, si on se détourne de Dieu volontairement, après avoir connu la vérité, on peut tout perdre. Alors, mais ceux qui seront avec lui, au moment de son retour, soit qu'ils soient ressuscités à la venue du Christ, parce qu'ils étaient morts, si certains d'entre nous meurent d'ici là, ou si nous sommes encore vivants, il va nous transformer en un instant, mais on sera avec lui quand même. Alors, il dit, les appelés, les élus, les fidèles seront avec lui à ce moment-là et vont régner avec le Christ. Allez à 2 Pierre maintenant, juste quelques pages auparavant. Deuxième épître de l'apôtre Pierre. Tout ça se tient et c'est fantastique. Et Pierre nous dit ici, justement, d'affermir, de rendre plus solide et notre appel et notre élection, le fait qu'on a été choisi, de ne pas prendre ça à la légère, d'y mettre tout notre cœur, de se préparer à ce qui vient pour tenir bon. 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, donc on a quelque chose à faire, hein? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. La vocation, ça c'est l'appel. À affermir votre vocation et votre élection. Parce que ceux qui ont été appelés et qui se sont montrés fidèles, qui se sont repentis, qui ont été baptisés et tout ça, et qui continuent à le faire, continuent à se repentir, sont appelés les élus. Alors, il dit, affermissez votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et vous allez, vous et moi, être capables de passer à travers ce qui vient, d'être des vainqueurs et d'être avec le Christ lorsqu'il va revenir. Affermir notre position, affermir notre démarche, ça veut dire se préparer en tant qu'être choisi par Dieu. Pourquoi? Pour occuper un poste dans le gouvernement mondial de Dieu qui s'en vient. C'est pour occuper un poste dans ce gouvernement-là. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans le sermon parce que ça a le rapport directement avec notre élection, là. Vous vous rappelez, le Christ a dit à ses disciples avant de partir, il dit, « Je vais aller vous préparer une place. Il y a plusieurs postes, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais aller vous préparer une place. Quand votre place sera prête, je vais revenir vous chercher, vous prendre avec moi. Et là où je serai, vous allez être avec moi. » Et on sait que ce sera sur la terre parce qu'il va revenir sur la terre. Mais il dit, « Je vais vous préparer une place, un poste, une responsabilité. » OK? Donc, Dieu a un plan en ce qui concerne les postes ou les responsabilités dans son gouvernement. Il y a un plan. Ce qui arrive, par contre, et c'est l'histoire humaine, c'est que Satan a voilé ce plan-là, a caché ce plan-là aux yeux de l'humanité entière. La Bible dit que Satan a séduit toute la terre. C'est pas peu de choses. Satan a séduit toute la terre. Et il utilise principalement deux fausses doctrines pour aveugler les gens. Et je vais vous les expliquer, vous allez voir comment ça devient clair. C'est important qu'on le sache. Pour aveugler les gens en ce qui concerne la vraie nature de Dieu, ce que Dieu fait, comment il agit, son plan, Satan utilise deux fausses doctrines qu'il a inculquées aux hommes, puis les hommes la répandent, puis ils croient. La première fausse doctrine, c'est la Trinité. Vous allez voir Comment ça s'insère dans ce que je vous explique? La première fausse doctrine qui voile et qui cache le vrai plan de Dieu, c'est la Trinité. Puis la deuxième fausse doctrine qui cache le plan de Dieu aux yeux des êtres humains, c'est la fausse doctrine de la prédestination. Selon ce que les humains la définissent, puis je vais vous l'expliquer tantôt. Alors ça, c'est les deux principales fausses doctrines que Satan utilise. Il en utilise d'autres, mais il y a beaucoup de choses qui sont autour de ces deux fausses doctrines-là, la Trinité et la prédestination. Il faut d'abord se rappeler que sans la puissance de Dieu, avec nous ou en nous, sans son Saint-Esprit, il n'y a aucun être humain qui peut vraiment connaître le vrai Dieu. Il n'y a aucun être humain sans l'Esprit de Dieu qui peut connaître le vrai Dieu. Et il n'y a aucun être humain sans la puissance de Dieu qui peut vraiment comprendre son plan. Même ceux qui ont étudié le plus profondément les Écritures de toute leur vie, des grands docteurs en théologie ou des gens qui se sont impliqués dans toutes sortes de religions, qui se pensaient bons, qui voulaient faire plein de bonnes choses. Certaines choses étaient peut-être bonnes, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu et ils ne connaissaient pas le plan de Dieu non plus. 1 Corinthiens 2. Je donne une clé ici. M. Armstrong l'a expliqué souvent, cette clé-là, mais c'est une base. Les choses spirituelles ne peuvent être comprises qu'avec l'Esprit de Dieu. L'être humain, juste avec l'Esprit humain, n'est pas capable de comprendre les choses de niveau spirituel. Alors, regardez ce qui est dit ici. 1 Corinthiens 2, on va lire du verset 9 à 11. Alors, verset 9. « Comme il est écrit, ce sont des choses, ce qu'il vient de parler, que l'œil n'a point vu, l'œil humain, l'œil physique, que l'oreille n'a pas entendu, l'oreille physique, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. » L'homme n'a pas pu penser à ces choses-là. « Des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. » Aimer Dieu, c'est marcher dans ses voies. Ceux qui sont appelés ont le choix de marcher dans ses voies ou pas. On a le choix de commencer à observer ses fêtes, on a le choix de commencer à observer le sabbat ou pas. On a le choix de faire les changements dans leur vie que Dieu montre qu'on doit faire ou pas. Et s'ils le font, ce sont des gens qui aiment Dieu, et les gens qui aiment Dieu, Dieu se révèle à eux et leur donne son Saint-Esprit. Des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Et à ceux qui aiment Dieu, même si on n'est pas parfait, on s'efforce d'aimer Dieu, de lui plaire, à ce moment-là, Dieu nous donne la compréhension. Verset 10. Dieu nous les a révélées, les choses spirituelles. Comment? Par l'Esprit, par sa puissance, par son Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et regardez le verset clé, verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? La formule peut sembler difficile à comprendre, mais ce que ça dit simplement, si vous regardez de plus près, c'est que les choses humaines, les choses physiques, les choses matérielles dans l'univers de l'être humain physique matériel, ça, l'être humain est capable de le comprendre. Il est capable de faire des mathématiques. Il est capable de bâtir des maisons. Il est capable de construire des véhicules automobiles. Il est capable de travailler avec des communications sans fil. Il est capable de, bon, vous savez, Dieu a mis un potentiel extraordinaire dans les êtres humains. Sauf que tout ça, c'est au niveau humain, au niveau physique, au niveau matériel. Il dit, pour comprendre les choses matérielles, Dieu a donné un cerveau à l'homme qui est capable de faire de grandes choses, mais sur le plan matériel. L'homme est capable de comprendre ça. Il est capable de calculer pour envoyer une sonde à des millions de kilomètres sur un endroit loin de la Terre, puis que ça va pas atterrir, mais que ça va arrêter ou se poser exactement à l'endroit prévu parce que ça a été calculé quasiment au centimètre proche. Alors ça, c'est le cerveau humain qui est capable de faire ça. Sauf que même ce grand cerveau humain-là, même les plus grands savants ne sont pas capables de comprendre les choses de Dieu s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pour ça que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu sans le connaître. Dans le fond, ils ne parlent pas du vrai Dieu. Ils parlent d'un Dieu, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ses lois. Parce qu'il n'observe pas le sabbat, il n'observe pas ses fêtes, et ainsi de suite. Écoutez, les chats, là j'ai votre attention, les chats comprennent la vie des chats et comprennent ce qui se passe au niveau de leur existence, mais ne comprennent pas ce que vous pouvez comprendre. Ils ne peuvent pas apprécier la musique que vous appréciez. Ils ne peuvent pas faire la nuance, par exemple, dans un poème pour voir ce que ça représente, le symbolisme et tout ça. Absolument pas. Ce sont des chats. Ils comprennent les choses de chats. Ils aiment les souris. Ils aiment à chasser les souris. Lorsqu'ils sont contents, ils manifestent d'une certaine façon. On peut les rendre contents en les flattant puis en les grattant derrière les oreilles, comme je fais quand je vais chez nous voir ma mère. Et bon, c'est leur vie, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que vous comprenez. Voyez-vous, c'est deux niveaux. Et c'est la même chose en ce qui nous concerne par rapport aux choses de Dieu. Tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on pense comme un être humain pense et on ne va pas plus loin. Voyez-vous, je vous donne ces exemples-là pour que ça devienne clair dans votre esprit. Sans le Saint-Esprit, ça veut dire avec simplement le raisonnement humain, puis poussé par Satan, qui est le père du mensonge, les êtres humains se sont inventés un Dieu, un tout petit Dieu, à la place du vrai Dieu. Et ils y croient fermement. Et ce faux petit Dieu-là, pour eux, est important, mais nous savons, par la parole de Dieu, que c'est un faux Dieu. Ça renie le vrai Dieu et ça le remplace. Là, je reviens à la Trinité. Je vous ai dit qu'une des armes de Satan dans ses mensonges, c'était d'avoir fait croire à une partie de l'humanité, à la Trinité. Même à une grande partie de l'humanité, à la Trinité. Vous rappelez-vous, quand on nous expliquait la Trinité à l'école, ceux qui ont grandi dans un milieu religieux, de quelle façon est-ce qu'ils illustraient ce que c'est la Trinité? Il y avait un triangle, hein? Il y avait un triangle, avec un œil dans le milieu, parce qu'il nous surveillait tout le temps. Mais en haut, c'était le Père. Dans un coin en bas, c'était le Fils. Et dans l'autre coin, c'était le Saint-Esprit. Et on nous disait que le Saint-Esprit était la troisième personne de la Trinité, alors que la Bible dit tout à fait le contraire, que c'est la puissance de Dieu. Et la Bible nous démontre que la divinité est composée seulement de deux êtres, le Père et le Fils. Au début, ce n'était pas Père et Fils, c'était deux dieux. Mais lorsque le Christ s'est fait chair et qu'il a été ressuscité, il est devenu le premier-né d'entre la création spirituelle, le premier-né de la famille divine. Alors, cette représentation-là de la Trinité, le triangle, c'est une structure fermée. Il n'y a pas d'accès à la divinité pour des êtres humains en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'insistait pas sur le fait qu'on est des enfants de Dieu ou qu'on peut devenir des enfants de Dieu à part entière, ayant la même nature que lui, étant comme le Christ, lorsque nous serons transformés complètement. Parce qu'il n'était pas question que les êtres humains deviennent des fils et des filles à part entière, des fils et des filles de Dieu. Voyez-vous, ça cachait la vérité glorieuse de Dieu, cette Trinité-là qui ne donnait pas accès aux êtres humains. Et à partir de là, c'est là qu'on a développé puis véhiculé, et qu'on véhicule encore malheureusement le salut qui est d'aller au ciel tout simplement sans savoir ce qui arrive après puis sans savoir ce que les êtres humains deviennent vraiment. Alors que la Bible montre que les êtres humains sont appelés à entrer dans la famille de Dieu, à devenir ses enfants à part entière, à devenir des êtres spirituels immortels. Voyez-vous? Et annonçant le retour de Christ et ainsi de suite. Bon. Alors, nous savons par la Bible que la divinité, c'est le Père et le Fils maintenant, parce que le Christ est devenu Fils, le premier-né d'entre les morts. Et la Bible nous dit clairement qu'il est le premier-né de plusieurs frères et sœurs qui vont faire partie de cette famille, à mesure que Dieu va les appeler. Bon. Alors, Dieu n'est pas une trinité. Au contraire, Dieu est une famille. Il est un père de famille qui est en train d'agrandir sa famille. Voyez-vous, c'est tout le contraire. Ce n'est pas quelque chose de bloqué. Au contraire, c'est ouvert à ce que d'autres êtres fassent partie de cette famille-là. La deuxième doctrine qui est utilisée contre Dieu et pour masquer son plan, c'est la prédestination. Prédestination, c'est la fausse doctrine selon laquelle Dieu aurait décidé à l'avance, qui serait sauvé et qui serait damné ou perdu. C'est ça la prédestination. Si vous regardez les définitions, c'est que Dieu aurait décidé longtemps d'avance, parmi tous les êtres humains, ceux-ci vont être damnés et ceux-ci vont être sauvés. C'est ça la prédestination. Vous regarderez les vraies définitions. Bon. Alors, j'ai regardé, j'en ai une ici, qui dit prédestination destinée de manière inéluctable à la damnation ou au salut. Destinée de manière inéluctable, c'est-à-dire non changeable, absolue, soit à la damnation ou soit au salut. Et c'est tout à fait contraire à la façon de procéder de Dieu. Ça cache la méthode que Dieu utilise pour amener graduellement des êtres humains à faire partie de sa famille. C'est complètement le contraire. Vous savez quelle méthode Dieu utilise? C'est que parmi tous les êtres humains actuellement, par exemple, Dieu en appelle un tout petit nombre, un petit troupeau, qu'il dit. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il appelle un certain nombre. Et dans les appelés, ceux qui se repentent, qui changent, Dieu leur donne son aide encore plus, leur fait comprendre, et leur fait comprendre qu'ils ont causé la mort du Christ, leur fait désirer le baptême, et ils choisissent volontairement de se faire baptiser, de se faire imposer les mains, de recevoir le Saint-Esprit. Et là, il y a un changement progressif plus grand qui s'installe par après, et c'est le développement du caractère de Dieu en vue d'occuper le poste précis que Dieu a en tête pour chacun de nous. Ça, c'est la méthode par laquelle Dieu fonctionne. Alors, Dieu n'a pas décidé avant la création du monde que ceux-ci vont être damnés et ceux-ci vont être sauvés. Ceux-ci vont avoir la vie éternelle et ceux-ci vont aller à la mort éternelle. Ce n'est pas déterminé par Dieu. C'est déterminé par nous, à qui il a donné le libre arbitre. On a le choix. Dieu ne force absolument personne. Dieu ne force absolument personne. La fausse doctrine de la prédestination, ça rejette le vrai plan de Dieu. Vous savez, par le raisonnement humain, les hommes concluent que certains, comme j'ai mentionné, sont inévitablement destinés soit à être sauvés, soit à être perdus. C'est ça la fausse doctrine de la prédestination. Alors que Dieu veut que les êtres humains qu'il a créés à son image, mais qui n'étaient pas terminés au moment de notre création initiale, au moment qu'on est venu au monde humainement, physiquement, parce que lui entrevoit de compléter son œuvre en nous rendant spirituels et en nous donnant la vie éternelle. Il nous a créés à son image. Il veut qu'on soit un jour dans son royaume, c'est-à-dire membre de sa famille divine. Et Dieu ne veut pas avoir de robots dans son royaume. Il veut que ce soit des êtres qui ont choisi librement de dire « Oui, je crois ce que tu me dis. Oui, je veux changer. Oui, je veux agir selon ce que tu me demandes. » Et tu me montres en plus que c'est ma façon d'être heureux. Et tu me donnes un avenir fantastique. Alors, Dieu nous a créés libres, c'est-à-dire capables de choisir. On peut choisir comment se vêtir, on peut choisir quoi manger, on peut choisir où habiter, on peut choisir quelle carrière on veut faire dans notre vie lorsqu'on est jeune, et ainsi de suite. On est capable de choisir. Et au-delà de tout ça, et je dirais plus important que tout ça encore, on peut choisir entre la vie et la mort. Puis on peut choisir entre le bien et le mal. Et il nous l'apprend, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal dans sa parole. Et ce n'est pas pour rien que Dieu mentionne dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit ceci, « J'ai mis devant toi, en parlant de chaque être humain, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Donc, ce n'est pas prédéterminé le choix que chacun fait. C'est à nous à le faire. Et Dieu respecte ce choix-là. Choisis la vie. « Afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dans ce faux concept de la prédestination, certains ont même conclu ou décidé, si vous voulez, que tous les êtres humains sont destinés à être sauvés. On entend ça parfois. Ou si ce n'est pas clair, c'est à travers leurs écrits ou leurs paroles, vous allez voir. Certains ont dit, « Dieu a décidé d'avance, Dieu veut... » que tous soient sauvés. D'ailleurs, je vous cite un passage biblique quand je dis ça. Dieu veut que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Mais ça, c'est son but. Mais il ne force pas les êtres humains d'y arriver, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Il leur offre. Et à ceux qui acceptent l'appel, qui changent, qui se convertissent, qui sont choisis, et après qui vont être fidèles, là, Dieu va leur donner la vie éternelle. Mais ceux qui vont rejeter ne l'auront pas. On sait que ce n'est pas un nombre immense, mais il y en aura. Alors, certains ont conclu que tous sont destinés à être sauvés, ce qu'on appelle le salut universel, pour tout le monde. Et ça, quelle que soit la conduite des gens. Mais ça, ça fait l'affaire des gens. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de loi à observer. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas personne qui leur dit quoi faire. Il n'y a pas de loi. Parce qu'on est prédestinés à être sauvés. Dieu veut qu'on soit tous sauvés. Le monde, il est beau, il est gentil. Il s'agit d'aimer dans notre cœur puis de donner notre cœur au Seigneur, comme on entend parfois à la radio ou à la télévision. Et tout est joué. Absolument pas. Quand Dieu nous appelle, il nous donne un plan d'action. Et pour arriver au but, pour affermir notre élection, il faut tenir le coup. Il faut changer des choses et il faut continuer. Mais il y a des gens qui disent, quelle que soit notre conduite, on va être sauvés. Le Christ a observé les lois pour nous. On n'a pas besoin de les observer. Voyez-vous, ça va tout ensemble, cela. Si vous mettez ces concepts-là ensemble, qu'on entend autour de nous dans la société ou qui sont publiés, c'est contraire à la loi de Dieu. La Bible dit contrairement, le contraire de ça clairement. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Qu'est-ce que le Christ dit ici? Est-ce que le Christ dit, quelles que soient les actions que vous allez faire, ne soyez point inquiets, j'ai observé la loi à votre place, vous allez tous être sauvés. Matthieu 7, et le verset 21, c'est le Christ qui parle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui parlent de Dieu, qui parlent de... Bon, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah! Donc, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous comment c'est clair? Ça, c'est notre condition, c'est nos ordres de marche. Comment je dois vivre maintenant? Je n'y arrive pas parfaitement, mais il faut que j'y mette tout mon cœur. Et on sait qu'en bout de ligne, ceux qui auront rejeté Dieu volontairement ou qui se seront détournés volontairement de lui, je ne parle pas d'une faiblesse ou de choses comme ça, mais qui se seront détournés volontairement de lui, seront éliminés à jamais. La Bible dit qu'ils vont devenir de la cendre sous vos pieds, comme c'est marqué dans Malachie. Et si vous regardez dans Apocalypse 20, versets 14, 15 et verset 8, il est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ». C'est-à-dire qu'au bout de l'histoire humaine, ceux qui n'auront pas été transformés, ceux qui n'auront pas été choisis, parce que tous auront été appelés, mais ceux qui n'auront pas été choisis parce qu'ils ont rejeté Dieu, à ce moment-là, vont être jetés dans l'étang de feu, tout simplement. Dieu ne permettra pas que ces êtres-là souffrent éternellement. C'est un Dieu rempli d'amour. Il va les éliminer éternellement, tout simplement. Et c'est ce qu'il dit au verset 8 du même chapitre, Apocalypse 20, « Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés sexuels, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu, qui est quoi? La seconde mort. Mais c'est la mort finale, la mort éternelle. Et ces fautes-là, on les a tous faites, pour ainsi dire, mais on s'en est repenti et on se repent. Mais ici, il parle de personnes qui font ces choses-là et qui ne veulent pas changer, qui, à un moment donné, ne veulent pas changer. Comment Dieu accomplit-il son plan de salut maintenant? Comment est-ce qu'il monte son plan de salut? Je vais vous le dire dans une phrase qui n'est pas habituelle à vos oreilles, probablement. Dieu accomplit son plan de salut et montre son plan de salut par les temps sanctifiés. Ah! Par les temps sanctifiés. C'est-à-dire les temps que Dieu a mis à part sur son calendrier sacré. Le sabbat. C'est un temps sanctifié. Le sabbat est un temps sanctifié. Et d'ailleurs, regardez, ça décrit le moment après le retour de Christ où tous les êtres humains qui vont être en vie à ce moment-là, là, vont être appelés. Ils vont avoir la chance d'entrer dans le plan de Dieu puis de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous? Alors, les temps sanctifiés nous montrent comment Dieu accomplit son plan. Et il y a les jours saints qui nous montrent les étapes de notre sanctification, et qui nous montre, le dernier grand jour, lui, Il concerne tous ceux qui ont vécu dans l'histoire humaine, qui sont morts maintenant, puis qui ont même des fois jamais entendu parler, même du Christ, ni du salut, ni de Dieu. Dieu va toutes les ramener à la vie et va leur donner à eux, à ce moment-là, la chance, l'occasion d'être appelés pour la première fois. Ce ne sera pas la deuxième fois, ça va être la première fois pour eux autres. Et là, ils vont pouvoir, en démontrant par leurs actions et leur attitude, montrer à Dieu qu'ils sont ceux qu'il peut choisir pour aller plus loin dans son plan. Ça, ça montre comment Dieu réalise le salut pour l'humanité. Voyez-vous, Dieu agit progressivement, il y a un plan établi et il ne laisse personne de côté, il ne force personne, mais il donne à chacun, et il a, au bout de l'histoire humaine, il aura donné à chaque être humain l'occasion d'être appelé et d'être parmi les choisis selon son attitude. Mais voyez-vous, en rejetant ces temps sanctifiés, les fêtes, puis le sabbat, puis en les remplaçant sous l'influence de Satan par des fêtes païennes, comme Noël, les Pâques, la Toussaint, le dimanche, la vaste majorité des êtres humains ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils l'ont pas, ils peuvent pas le voir. C'est ces fêtes qui nous le révèlent. Puis quand on observe ces fêtes, il nous donne de comprendre. Quand on observe son sabbat, il nous donne de comprendre ce que ça veut dire le sabbat, parce que c'est très significatif. Et la personne qui cesse d'observer ces choses-là, cesse de comprendre. Ça, je l'ai vu. Cesse de comprendre. Ça va ensemble. Plus on obéit à Dieu, plus Dieu nous donne son esprit. Moins on obéit à Dieu, on peut perdre son Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. » Satan a aveuglé les êtres humains et a totalement voilé le plan de Dieu. Sans le Saint-Esprit, influencé par l'adversaire, ce qui est arrivé, c'est que les êtres humains se sont bâtis un système philosophique de raisonnement humain pour essayer d'expliquer Dieu et de comprendre ce qu'il fait. C'est une recherche de Dieu, dans le fond, mais ils ont formé leur propre concept. Ils ont arrivé à leur propre décision. Mais ils ne comprennent pas Dieu, ni ce qu'il accomplit, ni comment il l'accomplit, parce que les êtres humains essaient d'expliquer des choses spirituelles en se servant de raisonnements physiques humains. C'est les chats qui ne peuvent pas comprendre les êtres humains. S'ils sont juste des êtres humains sans l'Esprit de Dieu, ils ont beau élaborer les plus belles philosophies, les plus beaux concepts qui semblent logiques, ça n'a rien à voir avec la réalité de qui est Dieu et de comment il travaille et de quel est son grand but d'avoir une famille élargie, agrandie, qui est en train de se développer et qui va comprendre le plus possible d'être humain. Alors, c'est ça qui arrive. Les gens essaient de comprendre. Sans Dieu et sans l'Esprit de Dieu, ils essaient de comprendre avec leur raisonnement et ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont bons en architecture, ils sont bons en mathématiques, ils sont bons en toutes sortes de choses sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, impossible. On ne peut pas traverser sans que ça nous soit donné. Alors, ils ont créé leur propre Dieu et ils ont créé plein d'églises d'hommes et non pas l'Église de Dieu. C'est pour ça que l'Église de Dieu doit se baser exclusivement sur la parole de Dieu. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. On va voir ce que le Tout-Puissant dit de lui-même puis de la vraie prédestination. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon, verset 4. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, appelés et choisis avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, il y a des individus dans l'histoire qui devaient être appelés et préparé pour des postes spécifiques dans le gouvernement que lui est en train de planifier. C'est ce que Dieu avait prévu d'avance. ça n'oblige pas les gens qui allaient être appelés en cours de route à aller dans cette direction-là ou dans l'autre. Chacun restait libre de son choix. Si bien que si quelqu'un est appelé, mais ne va pas plus loin, il ne devient pas un élu. Ou s'il devient un élu, mais qu'il se détourne, il n'est pas fidèle et n'atteindra pas le but, à moins de se repentir. OK? Il nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption. On voit son grand plan ici. Ce que Dieu avait déjà dans l'esprit avant de créer l'être humain, c'était d'avoir une famille, d'avoir d'autres êtres divins comme lui, de même nature, qui forment une famille, lui étant le Père, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 13. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Et si vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, c'est que vous êtes choisis. Parmi les appelés, Dieu vous a choisi, vous, parce que vous aviez l'attitude d'humilité, de vouloir vous repentir, de vouloir changer. Lequel est un gage de notre héritage? Oui, parce que c'est le commencement de notre héritage. Un gage, ça, c'est un dépôt. Et le Saint-Esprit, c'est un dépôt. On a juste une petite quantité au moment du baptême. On en redemande chaque jour. Mais Dieu va nous donner le reste de cet héritage-là à son retour, si on est fidèle, parce qu'il va nous rendre totalement esprit. Là, il va nous donner son esprit sans limite, sans mesure. On va devenir totalement esprit à ce moment-là. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais oui, c'est Dieu qui nous donne de comprendre. Illuminer les yeux du cœur, c'est de donner de comprendre ça. C'est formidable. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. À l'appel, il y a une grande espérance. Écoutez, c'est le but le plus extraordinaire qu'il peut y avoir à l'existence humaine. C'est le seul but valable et véritable. Et c'est le seul but réel aussi. Il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est ceux qu'il a mis à part, ceux qu'il a sanctifiés. Il les a appelés, il les a élus, il les a choisis. Et vous savez, allez dans Jean 6. Jean chapitre 6. Il faut vraiment que ce soit lui qui illumine les yeux de notre cœur pour nous donner de comprendre. On revient toujours à ça. Sans ça, on raisonne seulement comme des êtres humains. On a beau parler de Dieu, penser qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas. Mais si lui illumine les yeux de notre cœur, là, on peut comprendre. Et vous savez, dans Jean 6, 44, Dieu dit « Nul ». C'est le Christ qui parle. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Alors, il faut que ce soit Dieu qui nous ait attirés au Christ, qui a mis un intérêt quand il nous a appelés. Puis il a vu qu'est-ce qu'on faisait avec ce qu'il nous donnait. Si on voulait aller plus loin, si on désirait aller plus loin avec un esprit d'humilité pour changer, pour lui plaire, il nous en a donné davantage. C'est ce qu'il fait avec les gens qui l'appellent encore actuellement dans l'Église et qui ne sont pas encore baptisés. Il travaille avec eux. Il leur donne davantage à mesure que les personnes s'efforcent de lui plaire et de faire ça selon sa volonté. Et ça, il le répète deux fois dans Jean 6, ce principe-là que je viens de vous dire. Alors, Dieu a prédéterminé que certains individus seraient appelés à certains moments donnés ou à certaines étapes de l'histoire. Tout ça toujours pour réaliser son plan. Parce que lui, il s'est formé le gouvernement, là, avec pour le retour de Christ, là. Et il y a des postes, il y a des fonctions qui doivent être remplies. Maintenant, on va voir le contexte des deux déclarations qui viennent d'être faites, où le Christ dit, il n'y a pas personne qui peut venir à moi si ça n'est pas donné par le Père. Il n'y a pas personne qui peut comprendre les choses spirituelles, ça comprend ça aussi, si ça ne lui est pas donné par l'Esprit de Dieu. Ça revient à ça aussi. On va voir le contexte de ces deux déclarations-là, puis on va voir le fait que la compréhension des choses spirituelles n'est accordée en plus grande quantité qu'à ceux qui choisissent de s'engager à vivre comme le Christ, à devenir comme lui, à l'imiter puis à développer sa stature. Dans Jean 6, versets 1 à 9, pas besoin de le lire, mais Jean 6, versets 1 à 9, c'est la multiplication des pains par le Christ. Ça, vous connaissez l'histoire. Maintenant, regardez le verset 10 et 11. Verset 10 et 11. Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis, leur donna de même que les poissons, autant qu'ils en voulurent. Vous connaissez ce miracle-là. Regardez le verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Regardez bien. Ces gens-là ont tous vu une chose impossible à l'être humain, là. Il y avait quelques poissons, quelques pains. Le Christ a béni ça et ça s'est changé en nourriture pour les 5000 hommes, donc plus femmes et enfants qu'il y avait là. On imagine la grande foule. Alors, pour eux autres, là, il y avait quelque chose qui les dépassait là-dedans. Alors, ils étaient en admiration, ils ont été impressionnés par les choses physiques qu'ils ont vues. J'insiste là-dessus. Ça va vous aider à comprendre tout mon point au cours du sermon. Ils ont été impressionnés par les choses physiques. Ils pensaient comme des chats. OK? Ils étaient à leur niveau. Ils étaient au niveau. Ils ne pensaient pas comme des chats, mais j'applique l'analogie. Ils pensaient comme des êtres humains pensent. Ils ont vu quelque chose d'anormal, d'extraordinaire. Ils ont dit, ils avaient lu les textes sans les comprendre vraiment, mais en sachant qu'il allait venir un prophète. Alors, ils ont dit, c'est lui. Mais ils ne comprenaient pas qui était ce prophète-là non plus, puis pourquoi il était venu et tout ça. Ils comprenaient certaines choses à leur niveau. Ils étaient capables de lire les mots dans l'Ancien Testament puis dire « ces mots-là ont été écrits, ça doit être ça », mais pas capables d'aller plus loin. Alors, celui-ci est vraiment un prophète qui doit venir dans le monde. Et à tel point qu'ils ont dit « on va le faire notre roi ». Hey, ça, c'est un gars capable. Comme les gens font en politique du monde, ils vont chercher quelqu'un qui a une notoriété ou qui a certaines capacités. On va le mettre notre président, on va le mettre notre premier ministre. Il va accomplir des choses. Ça reste un être humain, et les gens le réalisent après peu de temps. OK? Alors, regardez verset 15. « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever, pas, il n'allait pas à peu près, là, il allait venir l'enlever pour le faire roi, s'est retiré de nouveau sur la montagne, lui seul. Il est parti, puis il a fui. Il s'est en allé. Parce que là, il voulait le faire roi physique. Le Christ n'était pas venu pour être roi physique. Il était venu dans le but d'établir son gouvernement spirituel sur la terre plus tard, qui allait bien sûr avoir des incidences sur la terre physiquement, mais il n'était pas venu pour être un roi physique. Satan, il avait offert avant, mais pas rien qu'un royaume, il avait offert tous les royaumes. Il a dit non, merci, je suis venu pour d'autres choses que ça. Voyez-vous? Verset 26-27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, puis vous avez été rassasiés. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Oh! Pourtant, sous Moïse, il y avait eu la manne, vous vous rappelez? Mais ici, le Christ les amène à un autre niveau de compréhension. Il leur parle de quelque chose de spirituel. Il leur dit, la vraie manne du ciel, la vraie manne spirituelle, ce n'est pas la manne que Moïse a vue être distribuée aux Israélites. C'est moi. Je suis le pain du ciel. Ça, c'était haut comme niveau de compréhension. Il n'était pas capable de saisir ça. Après ça, continuons un petit peu plus loin. Verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. » Et ainsi de suite. Allez plus loin. Et regardez verset 41-42. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Ça, ça posait un problème. Parce que quand il parlait de pain descendu du ciel, les autres, ils voyaient la manne qui tombait. Ils avaient vu les récits, encore là, dans l'Ancien Testament, qui avait c'est comme ces petits gâteaux-là qui apparaissaient au sol le matin, qui descendaient, qui étaient là. Alors, eux, ils se référaient à ce qu'ils avaient lu, les mots physiques. Et là, ils disaient « Bien, ça peut pas être ça ». Alors, ils murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain ». Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Autrement dit, là, il commençait à s'ancrer encore plus dans les choses physiques, matérielles. Il a beau avoir fait un miracle, mais oublions pas une chose, mes amis. Ça, c'est le garçon de Joseph puis de Marie. Je sais d'où il vient. Il a grandi pas loin de chez nous. On peut en laisser pas mal dans ce qu'il dit. Voyez-vous, ça, c'est le raisonnement des êtres humains qui sont capables de belles choses d'architecture, qui sont capables d'envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes, sur la Lune, et ainsi de suite. Mais quand arrive le temps de comprendre des choses spirituelles, pas possible si Dieu ne leur donne pas. Verset 48. Ça continue dans le même sens, verset 48. Qu'est-ce que le Christ dit ici? « Je suis le pain de vie. » Verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et ainsi de suite. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous comprenez la Pâque, vous le comprenez. Parce que le soir de la Pâque, lorsqu'on prend le pain sans levain, ça représente quoi? Le corps du Christ. Et quand on prend la petite coupe de vin, ça représente quoi? Le sang du Christ. C'est un symbole. OK? Mais on comprend ce que ça veut dire. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que le Christ dit ici, il faut que vous, pour m'appartenir, pour appartenir au Père, pour être les choisis en direction, dans la fidélité vers le monde à venir, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Ça, ils n'ont pas pu le supporter. Parce qu'ils pensaient que c'était comme du cannibalisme, là. Il était simplement encore au niveau humain. On dit, ça ne se peut pas. On ne peut pas faire ça. Ça ne se peut pas pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que ce qu'il comprenait n'est pas ce que ça voulait dire. Parce que ça voulait dire prendre la Pâque, se repentir, être baptisé, et ensuite recevoir le Saint-Esprit, et là, prendre la Pâque chaque année, au moment convenu par Dieu. Alors, le Christ leur expliquait une grande réalité spirituelle, mais ils n'ont pas pu la saisir. Et vous regarderez dans le contexte, pas longtemps après, il y a plusieurs de ses disciples qui n'ont pas pu continuer à aller avec lui. Pourquoi? Parce que eux autres n'étaient pas capables de comprendre plus. Peut-être qu'ils étaient parmi les appelés, peut-être qu'ils ne s'étaient pas repentis, peut-être qu'ils n'étaient pas disposés à se repentir, quoi qu'il en soit, ils n'ont pas été parmi les choisis. Parce qu'ils ont quitté le Christ. Et certains auront leur chance plus tard, j'imagine, parmi ces gens-là, sinon tous, mais ils n'ont pas pu aller plus loin. Voyons maintenant ce que les élus ont comme cheminement à faire. Part à jouer. Et de plus en plus, à ce moment-là, leur vision spirituelle va être améliorée. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et on va lire le verset 3 et 4. C'est fantastique quand on regarde le plan de Dieu sous ces angles-là. Ça nous fait voir la majesté du grand Dieu qu'on sert. Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Alors ça aussi, c'est une réalité spirituelle. Quand on est passé par les eaux du baptême, au même moment, Dieu nous purifie par le sang du Christ de nos fautes passées au complet. Voyez-vous? Mais ce qu'on voit lorsqu'on est baptisé, c'est l'eau. C'est soit la rivière où on est, si c'est dans une rivière, ou la piscine où on est. Ce sont des choses physiques. Mais celui à qui il est donné de comprendre voit au-delà de ça ce qui est en train de se passer dans sa vie, ce que Dieu est en train d'accomplir pour lui ou pour elle personnellement dans leur vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alors, nous sommes un peu comme morts, passés par les eaux de la mort du baptême, comme le Christ est passé par la mort, pour être lavé, et ensuite pour ressortir, comme par une résurrection, l'homme nouveau ou la femme nouvelle, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et voilà notre part à jouer ensuite, après qu'on est sorti des eaux du baptême. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est ce qui nous attend. Soit le changement total, si on est vivant lorsqu'il reviendra, ou la résurrection, le retour à la vie, lorsque Christ reviendra sur la terre. Et quand on vit cette expérience-là, réellement, de tout cœur, notre vision est automatiquement changée. Et après ça, on reçoit le Saint-Esprit et Dieu nous donne de plus en plus de force à travers les épreuves. Et les épreuves viennent et les difficultés à vaincre aussi. Et on ne vainc pas nos problèmes tout d'un coup. Il ne faut pas se décourager. Mais il faut tenir. C'est ça la persévérance. C'est de maintenir le cap et de demander l'aide de Dieu régulièrement pour être capable d'y arriver. Versets 6 à 8 ici. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez-vous notre cheminement, ce qu'on doit faire comme cheminement? Alors, Si au moment du baptême, et ça arrive parfois, si au moment du baptême, la personne ne s'est pas vraiment repentie, n'était pas sincère, le baptême, Dieu n'est pas obligé de le faire. Le baptême n'a pas lieu, pour ainsi dire. S'il n'y a pas de repentir réel, au baptême, ça veut dire que le vieil homme n'est pas enseveli. Dans certains cas, c'est arrivé. La pensée reste charnelle. Et parfois, on voit, on se demande après pourquoi telle personne ne change pas ou n'arrive pas à changer. La pensée reste charnelle. Ce n'est pas un homme nouveau ou une femme nouvelle qui sort de l'eau. C'est simplement un pécheur mouillé. C'est ça? C'est pas un pécheur repenti. C'est un pécheur sec qui est entré dans l'eau. Puis le seul changement qu'il y a eu, c'est qu'il en ressort pécheur mouillé. Et après, il faudra que sa conversion se fasse à un autre moment donné, tout simplement. C'est des choses qui arrivent parfois. Il faut que le repentir soit réel et qu'il y ait vraiment changement pour devenir enfant de Dieu, pour être engendré. Et il faut penser de plus en plus comme le Christ. Et la résurrection dont il est question ici, c'est vrai que c'est la résurrection au retour de Christ ou le changement au retour de Christ. Mais c'est en même temps une transformation ou une résurrection continuelle à la vie spirituelle dans notre démarche de chrétien. Parce qu'on a un changement continuel. On laisse des choses en arrière, on abandonne des choses pour en vivre selon des choses nouvelles. On est animé à ce moment-là, fortifié par l'Esprit de Dieu, par sa présence, et c'est là toute la différence. Si on voit les choses spirituellement, automatiquement, donc, on a une nouvelle vision, on a une nouvelle perspective. Bien sûr, on continue à être physique, on continue à vivre dans un monde physique, mais notre attitude, elle, est totalement changée. Puis ce qu'on voit, c'est pas ce que l'œil humain voit autour. On voit des choses qui viennent, qui ne sont pas visibles à l'œil nu humain. Ce qu'Abraham voyait, la cité qui a de solides fondements, la nouvelle Jérusalem, le retour de Christ, on le sait. On le sait comment? Par l'entendement de notre esprit, parce que Dieu nous a donné d'y croire, de savoir que c'est la réalité, que c'est la grande réalité qui vient et qui va changer tout le reste de l'histoire humaine. Et à cause de cette vision-là que Paul avait, cette certitude-là. C'est pour ça que Paul pouvait dire, Romains 8, verset 38-39, vous pourrez aller voir plus tard, Romains 8, verset 38-39, Paul dit, « J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. » Il y avait cette assurance-là. Parce qu'à un moment donné, cette vision-là devient claire, puis elle est plus réelle. Plus on avance, que les choses soi-disant réelles qu'on voit autour et qui sont temporaires, qui vont passer, et vite. Alors, voyez-vous, Dieu n'est pas une trinité. Dieu est un merveilleux Père et le merveilleux Père de la famille divine. Pour l'instant, qui compte un fils né, le Christ, premier-né d'entre les morts, et plusieurs fils et filles potentiels qui ont été engendrés. Et au moment du retour de Christ, qui vont naître dans la famille de Dieu, qui vont voir le Christ comme il est, qui seront de même nature que lui et qui seront membres à part entière de la famille divine pour régner. Alors, Dieu n'est pas une trinité, c'est un père de famille. Et Dieu n'a pas déterminé d'avance, Dieu n'a pas prédestiné certains à réussir puis certains à échouer. Absolument pas. Dieu donne vraiment le libre choix. La prédestination établi avant la fondation du monde, dont Dieu parle, ça concerne les postes à être occupés dans son royaume. Le plan était fait d'avance. Comme si, ben, par exemple, à un moment donné, je veux me bâtir une équipe de hockey pour faire partie de la Ligue nationale, si j'ai les fonds, et puis là, je me dis, dans 5 ans, j'aurai une équipe dans la Ligue nationale, je vais faire l'application pour être accepté, mais ça me prend tant de joueurs, ça me prend tant de gardiens de but, ça me prend tant d'entraîneurs, ça me prend... Voyez-vous, il faut que je planifie pour mon équipe que j'aurai besoin pour avoir une équipe de hockey. Le Christ et Dieu ont fait la même chose lorsqu'ils ont planifié le plan. Ils avaient établi les postes qu'ils auraient besoin pour le fonctionnement de leur gouvernement. Mais ils n'ont pas établi qui vont les occuper. Parce que ça peut changer. Regardez simplement physiquement Le premier roi sur Israël, Saül, OK? Dieu a dit non, ça ne va pas, je le garde pas. OK? Il n'a pas été choisi après, comme continuation de régner sur Israël. C'est David, comme roi physique, qui a été mis à la place. Même phénomène dans l'Église actuellement, dans la préparation de l'équipe. Dieu travaille avec ceux qui l'appellent. Ils sont choisis s'ils ont la bonne attitude, comme je vous dis. Et s'ils sont fidèles jusqu'au bout, ils auront le poste que Dieu a en tête. Le poste est déjà établi, lui. Mais si moi ou vous, on se détourne ou on abandonne Dieu, Dieu va nous remplacer pour le poste qui va exister et qui sera vacant, mais qui est là en attente pour vous et pour moi, si on est fidèle. Voyez-vous? Alors, la prédestination, ça concerne les postes à être occupés dans son royaume et non pas qui va les occuper. Les postes à être occupés dans le monde à venir ont été déterminés d'avance. On en a quelques exemples dans la Bible, pas beaucoup par exemple. Vous avez le roi David. Concernant le monde à venir, la Bible dit clairement que lorsqu'il sera ressuscité, quel poste il va occuper? Il va être le roi sur les nations d'Israël. Okay? Vous avez les 12 apôtres originaux. Le Christ indique qu'ils vont être en charge chacun d'une des tribus d'Israël. Alors, eux autres, on sait quel poste ils vont occuper. Comment ça va se passer, puis on n'a pas le détail, là. Et pour les autres, on n'a pas d'indication, ni pour nous. Mais Dieu le sait, lui. Il n'arrivera pas à l'autre bout et dire, ouais, qui on mettrait bien à telle place? Non, non, on est à l'entraînement, justement, pour se préparer à ça. Lui, il sait comment nous préparer pour ce qu'il a en vue pour nous autres. On vit toutes sortes de circonstances, toutes sortes de situations, et à travers tout ce que nous vivons, Dieu prépare pour le poste qui nous attend. C'est dans le temps, c'est selon son horaire. Dieu nous appelle ensuite. Et Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, Dieu nous offre la responsabilité d'occuper ce poste-là. Et je reviens là-dessus, sans le sabbat et sans les jours saints, il n'y a pas de plan de Dieu structuré. Et on ne peut pas le comprendre. Et si un individu cesse de les observer, ou si un individu n'observe pas ces fêtes-là, c'est impossible pour lui d'en avoir la compréhension. Il trouve ça bizarre, il trouve ça dépassé. Le sabbat n'a pas lieu d'être, les fêtes de Dieu n'ont pas lieu d'être, et ainsi de suite. Alors qu'elles sont chargées de signification. Vous savez, si la prédestination était vraie, voyons ça dans l'autre sens. Si c'était vrai que Dieu détermine d'avance qui va être sauvé et qui va être perdu, c'est lui qui décide, on n'a pas le choix, on n'a pas de liberté. Si Dieu faisait ça, ce serait un Dieu injuste. Ben oui, pourquoi lui et pourquoi pas l'autre? Si c'est lui qui décide et non pas la personne, Dieu serait injuste, il serait partial. Il aurait fixé d'avance que certains vont avoir la vie éternelle, d'autres la mort éternelle, sans qu'ils aient pu choisir. Donc, Dieu serait injuste. Si c'était décidé d'avance par Dieu, s'il y avait la prédestination, il serait impuissant aussi. Pourquoi? Écoutez, les gens s'époumonnent pour dire que c'est maintenant le temps d'être sauvé. Si vous ne donnez pas votre cœur à Jésus maintenant, vous êtes perdu à jamais. Si c'était prédestiné comme ça, tous ceux que Dieu perdrait seraient en nombre incroyable, puis ils ne pourraient rien faire pour eux autres. Tous ceux qui sont morts dans l'histoire, sans avoir même entendu le nom de Christ, sans avoir reçu la prédication de l'Évangile, sans savoir même que Dieu existait, qui ont adoré les arbres, le soleil, tout ce que vous voulez, dans les temps anciens, même encore aujourd'hui à certains endroits, ces gens-là n'auraient pas de chance. Dieu ne serait pas capable de les ramener à la vie puis de leur donner leur chance? Absolument pas. Dieu est juste et Dieu est tout-puissant, va donner une chance à chacun, au bout de l'histoire. Chacun des êtres humains qui auront vécu auront eu leur occasion de pouvoir être appelé, être choisi et marcher dans la fidélité. Et si la prédestination, comme je vous l'ai défini, était vraie, ce qui n'est pas le cas, Dieu ne dirait pas la vérité, parce qu'à combien d'endroits dans la Bible, il dit « choisis la vie, choisis tes chemins, marche dans les sentiers de Dieu, fais ceci, fais cela ». Il ne dirait pas tout ça, il dirait « faites ce que vous voulez ». Ça va arriver pareil à la même place. C'est vrai. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible serait faux. Voyez-vous comment c'est fort quand on fait l'analyse en détail de ce que c'est réellement? La vérité, au contraire, elle est merveilleuse, elle est encourageante. Dieu, c'est un Père aimant qui va offrir à tous le choix de l'immortalité puis de la vie heureuse. À ceux qui sont appelés, élus maintenant, Dieu promet, comme c'est écrit dans Romains 8, que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés et qui l'aiment. Ceux qui sont appelés et qui l'aiment, ça, c'est les choisis, c'est les élus. Parce que si on aime Dieu, on essaie de lui plaire, puis on essaie de vivre selon ses lois. Il dit, à ce moment-là, si vous faites ça, tout ce qui vous arrive, si vous êtes fidèle, va concourir à votre bien. Et vous allez un jour être appelé, élu et fidèle. Dernier verset, 2 Pierre 1. 2 Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît. On est allé dans ce passage-là au début du sermon. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Regardez l'encouragement que Dieu donne à chacun et à chacune d'entre nous. Sa divine puissance, il est El Shaddai, il est le Tout-Puissant, nous a donné tout, j'insiste sur le mot tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comment on développe la nature divine? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors voyez-vous, Dieu nous a tout donné ce qu'il faut. Si nous continuons à faire notre part, à changer par sa force, à persévérer en toutes circonstances, nous continuons à ce moment-là à être ses élus et notre Père Tout-Puissant met à notre disposition tous les moyens nécessaires pour que nous arrivions au grand but final.